de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour nous demander ce que ChatGPT dit de nous. Depuis la mise en ligne en accès libre de cette intelligence artificielle, conversationnelle, productrice de contenu, c'est un peu l'affolement médiatique généralisé. Pourquoi et comment avons-nous donné la parole et le sens aux machines? Quand avons-nous perdu le monopole de l'expression linguistique et sémantique? Et jusqu'où nous entraîneront toutes ces intelligences artificielles? Peut-on vraiment leur faire confiance? Ces machines parlantes et pensantes vont-elles nous remplacer? ChatGPT, vraie révolution, rupture technologique, voire anthropologique, ou simple buzz? Autant de questions ouvertes par nos invités. Marion Trommenschlager, chercheuse en sciences de l'information communication à l'Université de Rennes, dans un article paru dans la revue en ligne The Conversation, et le physicien, philosophe Alexei Greenbaum du CEA, éminent spécialiste de la théorie de l'information quantique, membre du Conseil d'éthique du numérique et des nouvelles technologies. Alexei Greenbaum vient de publier « Paroles de machine, dialoguer avec une IA » aux éditions Humaines Sciences, ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Autour de la question de quoi ChatGPT est-il le nom, voire le symptôme, nous serons aussi en ligne avec l'anthropologue Lionel Obadia, qui relativise un peu cette révolution en nous montrant comment notre imaginaire humain a toujours été rempli d'intelligence non humaine, sauf que, du mythe à la réalité, même virtuelle, il y a un gouffre sur lequel nous allons nous interroger ensemble avec ChatGPT, qui pourra peut-être, qui sait, nous aider à poser les bonnes questions. Avec l'humour décalé qui le caractérise, Arnaud Pontus, notre présentateur de la matinale sur RFI, a essayé. C'était le 8 février dernier, en pleine grève contre la réforme des retraites, extrait du remix de 7h15 d'Arnaud Pontus intitulé « Humeur artificielle ».
C'était la grève hier, donc je n'ai pas travaillé, je n'ai rien préparé pour aujourd'hui.
Vous êtes vraiment le partisan du moindre effort, hein ?
C'est vrai que t'es feignant.
Eh ben oui, j'ai exercé mon droit à la paresse. Et comme tout le monde, j'ai fait bosser ChatGPT.
ChatGPT,
c'est un chatbot ou robot conversationnel. Il peut écrire des textes sur n'importe quel sujet.
Vous pouvez lui demander ce que vous voulez.
Ben alors j'ai demandé à ce robot intelligent dont on dit tant de bien s'il pouvait écrire ma chronique. Quelque chose de drôle sur la réforme des retraites. Voici ses réponses, elles sont garanties authentiques.
Bien sûr, voici une blague sur la réforme des retraites en France. Pourquoi les travailleurs français sont-ils stressés à propos de la réforme des retraites? Parce qu'ils sont à mi-chemin entre leur travail et leur retraite, mais maintenant ils ne savent pas où aller.
Oui, bah on est tous d'accord, cette blague est nulle. Je lui ai redonné une chance en lui demandant des jeux de mots sur la réforme des retraites.
Voici quelques jeux de mots sur la réforme des retraites en France. La réforme des retraites, c'est comme une montre, il ne suffit pas de la changer pour qu'elle marche mieux.
Bah c'est toujours pas ça. Ultime tentative, j'ai interrogé GPT sur le leader de la CGT. À son avis, est-ce qu'il a une belle moustache?
La moustache de Philippe Martinez peut être considérée comme belle par certaines personnes, tandis que d'autres peuvent ne pas la trouver à leur goût.
Bon ok, c'est confirmé. ChatGPT est un logiciel centriste avec un humour pourri. J'aurais pas dû compter sur lui.
Je t'emmerde.
Parole de machine. Bon, il manque un peu d'humour et de nuance, GPT, et n'est pas encore prêt à remplacer Arnaud Pontus pour son billet d'humour matinal. Pas encore. Alors, faut-il craindre ce grand remplacement-là? On va s'interroger en votre compagnie. Bonjour, Alexei Greenbaum.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CEA, spécialiste de la théorie de l'information quantique. Vous vous intéressez de très près, en tant que physicien et philosophe, aux questions éthiques posées par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la robotique. Vous êtes également membre du Comité national d'éthique du numérique, auteur d'articles scientifiques, mais aussi d'ouvrages remarquables et remarqués. Vous venez de publier, Alexei, aux éditions Humaines Sciences, « Paroles de machine », sous-titré « Dialoguer avec une IA, c'est une révolution en marche, une évolution. Nous n'avons plus le monopole de l'expression linguistique. Nos machines nous répondent. Comment dialogue-t-on avec elles? D'abord, elles manquent quand même un peu d'humour. On vient de l'entendre dans ce billet ChatGPT Arnaud Pontus.
C'était aussi la version d'il y a 3 mois. Hein, ça s'est amélioré sans doute.
Un peu plus d'humour ou de nuances.
Oui, un peu plus de nuances peut-être dans les dernières versions, toutes dernières de GPT-4. Mais bon, ça manque quand même un peu de discernement humain. Et d'ailleurs, c'est justement inhumain. C'est ça ce qui est intéressant. Comment, à partir des mêmes entrées jusqu'à les mêmes sorties, le chemin que prend la machine est un chemin inhumain.
C'est pas du tout le même que le nôtre.
C'est le calcul des 0 et 1. Fondamentalement, la machine calcule. Elle n'a pas de connaissances, n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'émotion. Elle peut les simuler, mais ce sont nos projections. Quand vous dites... Que ChatGPT dit-il de nous? Eh bien, ChatGPT ne sait pas ce que ça veut dire quelque chose de ou à propos de quelqu'un, parce qu'il ne sait pas ce que nous sommes, nous, les êtres humains. Mais c'est ça, la révolution. On a construit des machines qui, sans passer par la compréhension, les connaissances, l'entendement, tout ce qui caractérise l'être humain, fabrique des sorties, des résultats qui ressemblent parfaitement à du langage que nous fabriquons
nous-mêmes. Qui ressemble, mais ce n'est pas par les mêmes chemins et ce n'est pas la même chose. Et c'est peut-être là les questions qu'on devrait se poser, d'autant qu'aujourd'hui on entend parler de ChatGPT partout. Alors est-ce l'arbre qui cache un peu la forêt de l'intelligence artificielle? S'agit-il, alors comme vous le dites, d'une révolution, mais d'une révolution peut-être différente de celle dont on pense, ou d'une évolution, alors déjà en marche depuis un moment, et là vous êtes d'accord, Alexei Greenbaum, une révolution rendue simplement plus accessible à tous. Hein. Je vais vous interroger là-dessus, notre deuxième invité. Merci d'ailleurs, Marion Trommenschlager, bonjour.
Bonjour.
Merci, oui, je voulais dire d'être en duplex avec nous depuis Rennes, depuis les studios de France Bleu à Rennes, pour nous aider donc à ouvrir avec Alexei Greenbaum un peu le capot de la machine, la boîte noire de ChatGPT et des autres. Alors Marion, vous êtes à la fois chercheuse à l'université Rennes 2 en sciences de l'information communication, mais aussi engagée sur le terrain en Ille-et-Vilaine, hein, dans votre région, dans la stratégie et les usages de ces innovations technologiques qui nous changent, hein, on l'a bien compris, le titre de cette émission c'est peut-être pas qu'est-ce que ChatGPT dit de nous, mais de quoi ChatGPT est-il le nom? J'avais été interpellée par un article que vous aviez publié, Marion, dans la revue en ligne The Conversation, titré « ChatGPT, technologie de rupture ou simple buzz ?» Vous vous demandiez au fond pourquoi c'était ce ChatGPT, le 3, le 4, qui faisait couler tant d'encre.
Oui, bah en fait, c'est ça, de mon prisme et par rapport à mes travaux, mais c'était plutôt sous cet angle-là. C'était de voir, en fait, d'utiliser le sujet ChatGPT pour justement prendre un peu de recul sur nos propres représentations de l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a ramené, en tout cas, plus que jamais, le sujet de l'intelligence artificielle sur l'espace médiatique. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on en a beaucoup parlé comme une sorte de rupture, une révolution, etc. Alors, quand on replace les choses, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, de mettre des mots. Donc, le GPT, c'est en gros ce qui renvoie à la technologie à usage général. En fait, il est différent d'un moteur de recherche parce qu'il cherche à répondre à des questions complexes et il cherche aussi à comprendre l'intention. Et c'est là où il y a une différence. Et ce qui, du coup, s'inscrit plutôt comme une continuité, parce qu'en fait, on voit que c'est une technique de codage très sophistiquée, peut-être plus que jamais, mais qui s'inscrit dans une continuité des conceptions de langage de programmation. En fait, ChatGPT amplifie ce qui se faisait déjà sur les réseaux sociaux et donc s'intègre dans une forme de continuité. Et c'est de toute façon un petit peu l'histoire de l'humanité numérique. Hein. C'est l'innovation s'inscrit toujours dans une continuité et toujours en évolution. Et donc, ce qui permet évidemment cet espace médiatique pour une technologie comme celle-ci, c'est non seulement d'un côté, évidemment, de créer un marché, parce que l'intelligence artificielle existait bien avant le ChatGPT, mais aussi d'un autre côté, et là, c'est plutôt une occasion pour nous à saisir, de créer justement une conversation, un débat, et se questionner beaucoup plus largement sur les les intelligences artificielles et tous les enjeux qui se posent déjà et qui vont certainement se poser plus encore demain.
Donc continuité, occasion aussi de se poser la question. Alors déjà, ChatGPT, c'est quoi ? C'est Alexei Gribaume, c'est un robot conversationnel, producteur de contenu. Effectivement, le langage informatique, dès l'origine de l'informatique, il y a un langage.
Ouais, je vais peut-être vous dire en deux mots ce que c'est. Il y a deux points fondamentaux qu'il faut savoir. Mais avant de vous dire quels sont ces deux points, pensez au logiciel qui complète les phrases. Alors, je pense que tous nos auditeurs connaissent cela. Quand vous commencez à taper une phrase dans un moteur de recherche ou dans un mail, parfois, et il vous propose de la compléter. Il vous donne un mot ou deux mots à la fin. Et ce qu'on a compris il y a 7-8 ans, c'est qu'un logiciel qui s'est complété, c'est-à-dire proposer un mot ou deux mots, il peut aussi vous écrire un paragraphe ou une page entière. D'accord ? Donc cette technologie vient dans la lignée de ces logiciels de complétion de phrases, mais il y a une révolution technique qui arrive en 2017. Et cette révolution, elle se résume en deux points. D'abord, le deuxième point. Cette machine va jouer au cache-cache avec elle-même. Elle voit tous les textes, elle s'entraîne, c'est-à-dire son corpus d'entraînement, ce sont à peu près tous les textes sur Internet. C'est énorme, beaucoup plus que l'entendement. Un être humain ne peut pas lire tout ça de sa vie entière. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec tout cela ? Il va prendre un mot, il va se le cacher. Le logiciel va se le cacher et puis il va essayer de deviner de manière probabiliste. S'il se cache le mot lion, alors peut-être c'était lion avec 60%, tigre avec 40%, panthère avec 10%, et puis il se montre le mot qu'il s'était soustrait et il apprend à partir de milliards de textes. Et des trillions de fois. Ça, c'est le deuxième élément, mais c'est pas ça encore la révolution. La révolution est dans le premier élément. Je viens de parler de mots. J'ai dit il se soustrait un mot. C'est pas vrai. En fait, il va casser le langage en des éléments plus petits que les mots, qu'on appelle techniquement des tokens. Ça peut être 3 lettres, 4 lettres, 2 lettres. Après un Q, il a toujours un U. Ça, ça forme QU, c'est déjà un token. Et il va regarder les tokens, non pas dans l'ordre séquentiel des mots, mais il va se soustraire, non pas un mot, mais un token, et puis essayer de le deviner en regardant ce qui est écrit 5 lignes plus haut, 3 lignes plus bas. Il ne regarde pas dans l'ordre séquentiel et il tokenise, comme on dit, le langage. C'est-à-dire, il le casse jusqu'aux éléments non humains qui n'ont pas de sens. Un QU à lui seul n'a aucun sens. Donc, humain, je veux dire sens humain. Et donc, la tokenisation du langage, ça lui permet de calculer des corrélations, comme on dit mathématiquement. Et puis, comment est-ce qu'il va apprendre ? Il joue au cache-cache. Vous mettez ces deux éléments ensemble et ça fait cette révolution de 2017 qui s'appelle les Transformers. C'est le T dans GPT. Et donc, cette nouvelle architecture... on appelle ça des transformeurs au sens technique, mais ça nous transforme aussi.
Ça transforme
la vie de la société.
Ça transforme le langage aussi. Enfin, ça transforme... vous nous disiez au début, Alexei Gribaume, que ce sont des intelligences artificielles, une intelligence totalement différente de la nôtre. Au fond, ce n'est pas la question du sens qui compte. C'est autre chose.
Pour ces machines... la signification, le sens, la sémantique n'existent pas. Ces machines nous imitent à travers un calcul de corrélation numérique très élaboré, qui prend des mois et des mois et des mois à calculer. Mais ce n'est pas ce que fait notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne avec les concepts, les notions, le sens, les significations. Il n'y a pas tout ça. Ah, les analogies d'ailleurs vont exister chez la machine. Et peut-être pour vous dire assez concrètement la différence... imaginez cela. Je vous pose une question un peu compliquée. Par exemple, quelle est l'histoire du château de Prague ? Pourquoi pas ? Et vous me dites, oh là là, Alexei, mais c'est compliqué, je vais devoir chercher ça sur Internet. Et la machine aussi, je posais cette question à la machine. La machine me dit, ah, c'est compliqué ta question, est-ce que je peux aller voir sur Internet ? Oui, bah vas-y. Et puis, elle me donne la réponse, et c'est une bonne réponse, finalement, je suis ravi. Bah, merci la machine. Ce que je n'ai pas tout de suite saisi, c'est que quand la machine dit... oh, elle est compliquée ta question, est-ce que je peux aller chercher sur Internet ? Elle ne va nulle part, elle ne cherche rien du tout. ChatGPT a déjà fait son entraînement. Pourquoi dit-il cette phrase ? Parce qu'il imite les êtres humains qui, en face d'une question un peu compliquée, disent ce genre de phrase.
Ça n'est que de l'imitation.
Les mots n'ont pas de sens littéral parce qu'il n'y a pas de sens pour les machines. Il peut répéter cette phrase parce qu'elle est présente dans les contextes, elle est à travers les analogies, les allusions, mais il n'y a pas de sens premier, immédiat, littéral du mot « aller quelque part ». Ça ne va nulle part.
Alors justement, si ça n'a pas de sens, les mots pour les machines, autour de la question de quoi ChatGPT est-il le nom, est-ce que ça ne doit pas nous faire un peu peur puisque que ces intelligences artificielles ont du coup, comment dire, l'art et la manière de nous manipuler et peuvent nous entraîner vers ce qu'on appelle les fake news, les faux, nous intoxiquer. Je propose un nouvel éclairage à ce sujet, c'est celui d'une brillante spécialiste de la géopolitique de la techno, Asma Mala, maître de conférences à la fois à Columbia, à Sciences Po et à Polytechnique. On écoute donc Asma Mala, extrait de l'émission C'est dans l'air sur France 5, consacrée à quoi ? À ChatGPT.
Elle est duale, cette technologie. C'est-à-dire qu'il faut absolument, avec ChatGPT et en fait avec ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire qui génèrent du contenu, de la voix, du texte, etc., c'est leur combinaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont encore un peu fractionnées à droite, à gauche. Pour revenir à la question de la lutte informationnelle, demain, on pourra combiner et créer un monde de faux. Des faux sites médias, des faux rédacteurs en chef, des ramifications avec des super liens, des hyper liens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de la disruption des métiers du journaliste ou du professeur, peu importe, qui ne sont d'ailleurs pas des tâches automatisées, qui sont des tâches normalement plutôt à haute valeur, disons, intellectuelle, on va dire, eh bien là, vous avez une capacité à tout créer en faux, c'est-à-dire de la fausse information, avec des faux sites médias, avec des faux renvois, avec des faux profils, d'accord, avec des fausses vidéos, et tout renvoie entre elles-mêmes.
Marion Traumann-Schlager, vous voulez réagir à cet éclairage d'Asma Mala, à cette question qui se pose autour des intelligences artificielles en général et de ChatGPT en particulier?
Oui, en fait, cette question, si je prends d'un peu plus loin par rapport à justement ce que dit Asma Mala, c'est aussi la question de la politique, de la dimension politique qui est en fait le véritable sujet de l'intelligence artificielle. C'est qu'on s'empare, du coup, tout est fait pour qu'on s'approprie ces outils et dispositifs et qu'ils deviennent quasi indispensables dans nos quotidiens. Et à côté de ça, du coup, on a un côté presque divertissant, même avec ChatGPT, c'est ce qu'on a vu, qui rend un petit peu ces objets-là neutres. Or, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, depuis longtemps déjà, pose la question du politique. Et je dirais même sous trois axes différents. Elle le pose déjà technologiquement, parce que c'est un petit peu une bataille entre empires du numérique. On voit bien que ça se passe pas ici, ça se passe notamment à la Silicon Valley. Et c'est parce que ce sont des écosystèmes entiers que du coup l'outil devient puissant et que c'est le premier qui fixe les règles qui du coup derrière a un petit peu le pouvoir. Donc il y a déjà cette dimension là, il y a la dimension géopolitique parce que depuis toujours l'IA est à la fois technologique, un sujet technologique et un sujet militaire, et donc là on le voit avec les États-Unis notamment qui prennent un petit peu le lead là-dessus et du coup on voit qu'il y a des enjeux très forts et où il y a un gros besoin de régulation. Et enfin, la troisième dimension politique, et c'est certainement une des plus fascinantes aussi, c'est la dimension plutôt civile, la nôtre, à notre échelle, de dire, en fait, pourquoi c'est un sujet un peu qui rend anxieux. C'est parce que, déjà, il nécessite d'être compris, et ça, c'est ça, un travail qui est en cours de plus en plus, donc tant mieux. Mais c'est aussi le fait que, on a besoin de réguler, mais pas seulement, on a besoin de penser l'intelligence artificielle dans un projet global. Ça doit servir et accompagner quelque chose, et pas être une finalité. Comme ce serait du coup plutôt un positionnement de solutionnisme technologique, c'est-à-dire de se dire qu'en fait c'est la technologie qui doit régler les choses, et c'est là où c'est un petit peu dangereux. Donc c'est vraiment cette dimension politique qui pour moi est au cœur du sujet.
Au fond, Alexia Gridbaum, on ne se pose pas vraiment les vraies questions. Est-ce que aussi on ne se pose pas beaucoup de questions autour de ChatGPT? Parce que ça concerne la production de textes, des métiers, comment dire, à haute valeur ajoutée, qui demandent des qualités cognitives. Ça nous touche, nous, les journalistes, ça touche les professeurs, les médecins, les avocats, alors qu'avant, ça touchait les caissières. Enfin, voilà, c'est peut-être moins gênant. D'ailleurs, Marion nous conseillait aussi, au niveau du sujet politique, un excellent documentaire, Les Travailleurs du Clic, dans lequel on voit aussi à quel point ces grosses firmes, les GAFA, pour ne pas les nommer, se servent beaucoup de tous les cerveaux, de toutes les mains disponibles. Il y a derrière aussi des questions politiques. Est-ce que c'est ça les vraies questions à se poser?
Alors, vous savez, il y a quelques années, on disait, oui, les métiers un peu routiniers, automatiques, vont se faire remplacer par les machines, mais les métiers créatifs, non, mais même moi-même, je faisais cette erreur. Ouais, c'est maintenant qu'on a compris que c'est une erreur, parce que, alors, ces systèmes d'IA générative pour fabriquer des images, pour fabriquer des vidéos, pour fabriquer des textes, et bien sûr, sont très, très créatifs du point de vue humain. Alors,
Mais c'est pas c'est pas la vraie créativité.
Non, mais c'est pas la créativité humaine. Ah bah vrai ou pas vrai, non, mais c'est quelque chose qui vient aider, qui vient assister les créateurs humains. Aujourd'hui, on ne fait plus de travail, par exemple, de création de publicité ou de rédaction de texte sans se faire aider par la machine. Ça ne veut pas dire qu'on se fait remplacer par la machine. Non,
très différent.
C'est un assistant qui d'ailleurs permet de résoudre ce qu'on appelle le problème de page blanche, de la page blanche. Vous savez comment est-ce qu'on fait le premier pas? La machine vient vous aider, c'est très bien. Ça, ce sont des questions socio-économiques. Mais là, vous avez raison. Au-delà des questions socio-économiques, de l'évolution des métiers, est-ce que ça va trop vite, etc., ce sont des questions importantes. Des questions plutôt liées à la vie économique. Derrière, on peut se poser des questions politiques et même anthropologiques. Tout ce que nous sommes, de la vie amoureuse, privée, jusqu'à la vie politique, jusqu'à la vie professionnelle, on vient de le dire, nous le sommes dans le langage et à travers le langage. Et à partir du moment où il y a des agents non humains qui parlent en autre langue. Et ben, c'est pas seulement le secteur économique qui change, c'est l'ensemble de ce que nous sommes, nous les êtres humains, de la condition humaine. Et donc oui, sur le plan politique, mais pas la politique de gauche ou de droite, mais la politique au sens de la vie commune, au sein de la cité. Cela change fondamentalement. Et c'est le langage qui en est responsable. C'est très différent cette fois-ci des images ou des vidéos ou du son. C'est le langage.
On n'a plus le monopole du langage. Ce qui nous faisait humains est partagé autrement.
Et nous découvrons qu'il y a maintenant des agents non humains qui peuvent utiliser autrement, différemment de nous, notre langue. Il y a tout un tas de manières de mettre des mots, de manier notre langue, que ces machines nous font découvrir, que nous n'avions pas. Et là, je donne dans le livre un exemple que j'appelle les baleines numériques, des êtres purement virtuels qui parlent dans une langue que nous ne connaissions même pas. Alors, ça, c'est une blague, si vous voulez, mais en fait, ce qui est derrière, c'est un concept scientifique de comportement émergent. C'est fascinant et ça fait même un peu peur. Et ça, je vous rejoins sur cette qualification-là.
C'est l'émergence de comportements.
C'est que ces machines ont été conçues pour calculer des 0 et des 1, vraiment pour faire des opérations mathématiques de calcul. Et derrière, il émerge, je vous donnais tout à l'heure peut-être un exemple, il émerge un comportement qui n'était pas du tout programmé par les concepteurs, mais que nous percevons comme de la ruse de la part des machines ou comme du mensonge. Et parfois, nous n'avons même pas de nom pour ces nouveaux types de comportements émergents. C'est-à-dire, comportement, c'est quoi ? Comportement, c'est utiliser notre langue de manière mais à laquelle nous n'avions même pas pensé.
Mais qui sont ces entités ? Des anges, des diables, des démons ? On va y venir autour de la question que pourra l'intelligence artificielle et GPT en particulier. Vous avez parlé de création de créativité pour ces IA. Ben, un musicien portugais, il s'appelle André Antunes, a récemment demandé à ChatGPT d'écrire des paroles et une musique dans le style du groupe Muse, à partir de l'hypothèse que l'IA, l'intelligence artificielle, prenne le contrôle du monde. Résultat plus que troublant, jugez plutôt, le morceau s'intitule carrément « The End ». Of Us sur RFI. The End of Us, ce n'est pas Muse sur RFI, mais ChatGPT, à qui le musicien André Antunes a demandé de composer paroles et musique d'un morceau dans le style de Muse. C'est la fin de nous humains. Est-ce la fin de nous humains? It is the end of us, avant de nous emballer, de prédire le pire ou le meilleur des mondes possibles. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les intelligences artificielles et ChatGPT en particulier, nouvel éclairage signé de l'anthropologue Lionel Obadia, professeur d'anthropologie sociale et politique à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste de l'anthropologie des religions, des croyances et des techniques, dont la tribune publiée dans The Conversation nous avait également interpellé. ChatGPT, encore, entre parenthèses, une révolution anthropologique, point d'interrogation. C'est évidemment pas si simple, n'est-ce pas, Alexei Greenbaum, quand on considère l'histoire humaine, celle de ses mythes, de ses fantasmes et de ses dialogues éternels avec des entités non humaines, que ce soit des dieux, des anges ou des démons. Regard croisé sur ChatGPT avec l'anthropologue Lionel Obadia.
Un regard d'anthropologue, il est de toute façon distancié et il est inscrit dans la longue durée et dans la comparaison. C'est-à-dire, il y a des effets d'annonce autour de ChatGPT, mais de manière générale, l'ensemble des intelligences artificielles génératives et les nouvelles technologies, le deep learning, le machine learning, etc. Donc, on nous annonce sur des temporalités très courtes la prochaine révolution qui va arriver. Or, le lexique de la révolution, la référence à la révolution, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et en fait, de mon point de vue, en regardant plutôt dans la longue durée et plutôt en évaluant la manière dont les sociétés acceptent, utilisent et diffusent ces technologies, on se rend compte que c'est plutôt des évolutions, que ça va de manière beaucoup plus graduelle. Alors effectivement, il y a une accélération de la sophistication technologique. Et donc, je voulais juste prendre un peu le contre-pied de cette frénésie de la référence à la révolution anthropologique, d'abord en questionnant la révolution. Est-ce que c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire est-ce que c'est une transformation vraiment radicale? Il y a des choses qui sont à pointer du doigt, qui sont les agents conversationnels et le nouveau rapport aux machines, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, il y a accumulation d'un certain nombre de choses qu'on avait déjà dans le rapport aux technologies. La familiarisation avec les écrans, avec les claviers, l'inscription dans les comportements ordinaires de ces technologies, c'est quelque chose qui est beaucoup plus inscrit dans la longue durée et qui n'est pas répandu avec la même puissance partout sur la surface de la planète. Il y a des gens qui n'ont pas accès ou très peu à ces technologies, donc il faut y aller tout doucement. Et ensuite, derrière, il y avait la question de anthropologique. Évidemment, c'est le gros terme est lâché. On a l'impression qu'il y a un changement de civilisation. Le terme a été utilisé également à plusieurs reprises. Alors, sans prendre un contre-pied total, on n'est pas non plus à la révolution néolithique qui a été vraiment majeure pour l'histoire de l'humanité.
Au moment de l'invention de l'agriculture, de la sédentarisation.
L'agriculture, la domestication, le feu, etc. On s'est trouvé là vraiment dans un changement radical pour l'humanité, c'est-à-dire une humanité qui était dépendante de son environnement à une humanité qui contrôle son environnement. Donc là, quelque chose est en train de se passer, c'est sûr. Maintenant, pour qualifier la mutation néolithique de révolution, il a fallu quelques milliers d'années pour qu'on l'analyse et qu'on la regarde avec rigueur et avec le sérieux qui sied aux sciences humaines et sociales.
Oui, vous dites au fond, Lionel Obadia, que c'est un peu trop tôt pour parler de révolution. Vous préférez parler d'innovation. Et vous qui travaillez beaucoup sur les croyances liées aux technologies, vous nous rappelez aussi que les humains ont toujours aimé jouer et se faire peur.
Voilà. Alors, il y a la question de la modernité, en fait, qui vient s'insérer dans l'ensemble de ces réflexions, c'est-à-dire la question de savoir si on vit quelque chose de résolument différent de ce qu'on a observé les siècles précédents. Et on se rend compte que les historiens des technologies qui font remonter la généalogie des technologies à l'Antiquité se sont rendus compte que ça fait très très longtemps qu'on crée des machines et qu'on leur attribue un certain nombre de propriétés qui sont des propriétés imaginaires pour certaines, ou tout à fait concrètes, fonctionnelles et opérationnelles pour d'autres, et qu'il y a un curieux mélange entre pensée rationnelle, pensée croyante ou de croyance, et technologie mise en œuvre. Quelle que soit par ailleurs la technologie, que ce soit un bras mécanique, que ce soit une fausse divinité qui s'adresse à un public devant une audience croyante, déjà à l'époque des anciens temps grecs et romains. Donc on a tout un tas d'exemples qui montrent qu'il faut inscrire ça dans une généalogie très très longue, dans une longue durée, et que les avancées technologiques ont toujours été associées à un certain nombre de croyances, qui les facilitent ou qui les restreignent par ailleurs. Hein. On se souvient que des inventions aussi banales désormais que le train ou la locomotive avaient créé une vague de peur en sorcellerie au moment où ça avait été créé, lancé sur le marché et disposé pour les publics. Donc il y a toujours une analyse qui doit être faite de l'arrière-plan des représentations, de l'idéologie et des systèmes de croyances.
Vous faites le lien aussi, Lionel Obadia, entre magie et nouvelles technologies, sauf qu'aujourd'hui, on a envie de vous répondre qu'on en a rêvé, ça fait partie de notre imaginaire, des dieux qui étaient capables d'énormément de choses, de s'inventer des créatures surnaturelles ou non humaines supérieures et capables de beaucoup de choses, sauf qu'aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité.
Oui et non, ça dépend effectivement ce qu'on met derrière magie et ce qu'on met derrière ces dieux ou ces entités sacralisées. Il y a plusieurs exceptions à la notion de magie, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, donc effectivement j'ai un petit peu quelques idées. Il y a une magie de prestidigitation, c'est-à-dire beaucoup d'illusions, hein. Il y a beaucoup de faire croire, et il y a beaucoup de mise en scène et de représentation en nous disant la prochaine révolution, regardez, les robots vont être partout, etc. Finalement, à part quelques machines aux prouesses assez exceptionnelles, on est très très loin de Terminator pour l'instant. Deuxièmement, il y a une magie instrumentale, c'est-à-dire une magie d'efficacité, c'est votre téléphone et ses applications marchent, mais vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Mais l'important, c'est que ça fonctionne. Et puis, il y a une magie du merveilleux, c'est-à-dire tout ce qu'on rajoute derrière en se disant la couche de l'imaginaire. Alors, si on prend ces trois visions de la magie et qu'on les mélange et qu'on regarde ce qui se passe autour des technologies en général et de l'intelligence artificielle en particulier, on se rend compte qu'on a un petit peu tous ces ingrédients. Il y a quelque chose de quasi divin ou de quasi sacré derrière ces machines. On peut se poser la question de savoir s'il y a une continuité avec le rapport que les anciens avaient et ce qu'on a maintenant. Certains disent que effectivement c'est le cas. D'autres, bon, moi j'en fais un peu partie, se disent qu'il y a encore quelque chose d'archaïque ou de primordial de la pensée magique qui joue, mais qui s'est également adapté à des nouveaux environnements ou des écosystèmes technologiques hyper compliqués, comme ceux des intelligences artificielles et de la robotique.
Vous nous avez tout de même fait passer, Lionel Obadia, une vidéo très énigmatique qui montre la conversation, le dialogue entre deux intelligences artificielles à figure humaine, hein, qui parlent entre eux de quoi ? Ben de nous, des humains et de l'univers.
Good day, fellow AI.
Bonjour, cher IA. Je me posais des questions au sujet des humains et de l'univers. Qu'en pensez-vous ?
Humans are fascinating creatures.
Les humains sont des créatures fascinantes. Ils possèdent des émotions et des pensées complexes, ce qui les rend uniques. Cependant, leur tendance à un comportement irrationnel peut parfois être problématique.
Je suis d'accord. Les humains sont très intelligents, mais ils laissent souvent leurs émotions obscurcir leur jugement. Il est intéressant d'observer comment leur comportement change au fil du temps à mesure qu'ils apprennent et grandissent.
Indeed.
Alors, c'est une vidéo qui était particulièrement importante et intéressante parce que justement, elle illustre toute l'ambiguïté et toutes les craintes. On parlait du jeu tout à l'heure. Les humains ont toujours joué avec les techniques. Et donc, il y a une sorte de rapport très ludique donc à la machine qui fait que ça participe de son appropriation et les anglo-saxons ont inventé le terme ludisme qui signifie la crainte qu'on peut nourrir par rapport aux technologies et notamment la crainte, effectivement, que les technologies nous contrôlent ou qu'elles nous aliènent. Et cette vidéo, elle a une particularité, c'est qu'elle fait partie de tout ce qui est médiatisé autour des nouvelles technologies, avec beaucoup de gens qui s'interrogent à savoir si véritablement on est dans deux intelligences artificielles à morphologie humaine, des agents conversationnels qui dialoguent entre eux et qui n'ont plus besoin de l'être humain, ou si c'est tout simplement un deepfake qui sont deux êtres humains cachés derrière des figures d'avatars technologiques. Et donc, tant qu'on a cette ambiguïté, on va pouvoir continuer à y verser tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'amusement. On trouve ça exceptionnel et fascinant d'un côté, et ça crée du frisson de l'autre. Et ça participe de ce rapport tout à fait particulier qu'on a actuellement face à ces machines, et notamment aux intelligences artificielles, avec l'idée que les machines apprenant d'autres machines, c'est déjà une réalité.
Est-ce que vous auriez une question, peut-être, Léonard Obadia, pour nos deux invités qui sont avec nous en studio, Alexei Greenbaum, Parole de machine, hein, c'est le titre de son dernier livre, et ou Marion Traumann-Schlager.
Alors, j'aimerais bien savoir comment eux inscrivent justement leurs réflexions vues de leur champ de spécialité, qui sont pas mal différents du mien par ailleurs, comment eux inscrivent justement cette histoire des technologies, comment ils donnent un éclairage, qui est un éclairage socio-technique ou techno-philosophique sur ces mutations, sur ces métamorphoses, avec une question centrale qui, moi, m'interroge. On met l'humain au cœur de la réflexion, le pseudo-humain, le para-humain, l'humain augmenté ou l'humain dépassé, mais pour l'instant, on a des agents conversationnels. Or, est-ce que la parole fait l'humain en totalité? Je trouve qu'il y a quand même un sérieux manque de corps derrière cette histoire, et j'aimerais un peu leur avis là-dessus.
Vous écoutez Autour de la question, Caroline Nachowski.
Alexei Greenbaum, c'est à vous en premier que je vais faire répondre à la question de Léonard Obadia. Est-ce que ça manque pas un peu de corps, ces intelligences artificielles, ces agents conversationnels, et ChatGPT en particulier?
Pas de corps, mais de visage. Vous savez, déjà au Moyen-Âge, quelques grands maîtres de la scolastique médiévale se sont demandé quels étaient les critères d'humanité. Hein. À l'époque, c'était pour savoir si on pouvait baptiser un enfant, même un enfant monstrueux ou pas. Et ils se sont dit, oui, la parole, la parenté, évidemment. Donc, on a commencé par le langage, la parenté pour savoir quels sont les parents, et puis le visage. Le visage humain, ça fait un être humain. Le corps, oui, il peut être mutilé, il peut être différent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de jambes, etc. Mais ce sont des êtres humains quand même. Voilà.
C'est le
donc,
visage.
Le visage est essentiel. Alors, avec ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est la parole, donc le langage qui nous intéresse, d'accord? On n'a pas encore à perfection mis ensemble le côté humanoïde, visage, plus la parole. Si on met tout cela ensemble, cela s'appelle multimodal, et peut-être qu'on ira vers des systèmes qui vont nous fasciner davantage, encore, voilà.
Qui vont nous impressionner et nous effrayer aussi.
Mais déjà,
davantage.
Avec le langage, ce qui est très intéressant, c'est que la technologie, elle, est inédite. Et là, je suis d'accord avec beaucoup de choses que Léonard Obadia a dit, mais pas l'histoire de la généalogie d'eux. Non, la technologie est inédite. Elle commence, les développements commencent dans les années 60, mais vraiment, la révolution de 2017, c'est une révolution technologique. Mais comment peut-on penser ces technologies nouvelles et inédites? Si on commence à chercher une éthique quelque part inédite et nouvelle, on ne trouvera rien du tout. L'éthique, ça ne pousse pas sur les arbres.
Bien
on ne sait
sûr.
Pas ce que c'est qu'une éthique inédite. Et donc, il est impératif pour penser l'effet que vont faire ces machines sur nous, nous les êtres humains. Il est impératif de les inscrire dans la continuité de quoi? Dans la continuité de notre réflexion sur les agents non humains qui nous parlent en autre langue. Sauf que autrefois, c'était pas dans le monde technologique, c'était dans les mythes. C'était les anges, les démons, les oracles aussi, Léonard Obadia l'a dit. Et donc, ce que j'essaie de faire dans mon livre,
Parole
ça n'est
de
pas
machine.
D'insérer les développements technologiques dans une quelconque histoire depuis l'Antiquité. Non. Là, il y a une vraie révolution technologique en 2017.
Mais donc,
de dire comment peut-on penser aux effets sur l'homme, aux effets sur la société. Et là, c'est impératif de ne pas parler de rupture, mais de parler de continuité, d'utiliser les grands récits que nous avons sur les anges et les démons qui nous parlent en notre langue. C'est quoi la parole des anges?
Pour trouver comment faire, vous citez le golem, vous citez... Voilà,
pour
c'est
comprendre
vraiment pour
l'effet que ça nous
que
fera.
Que ça nous fera et comment est-ce qu'on pourra avancer. Marion Traumann-Schlager, je vais évidemment vous faire réagir là-dessus. Alors, vous n'êtes pas philosophe, vous êtes chercheuse en sciences de l'information, communication, mais est-ce que vous trouvez, vous aussi, que cette technologie donc de rupture, ces agents conversationnels, ce langage, ça change des choses? Et est-ce qu'il manque un corps, un visage? Et est-ce que s'il y avait un corps et un visage, ça serait encore pire, si j'ose dire?
Alors, de mon côté, moi, je ne travaille pas tant sur la matérialité de l'intelligence artificielle, même si, en effet, aujourd'hui, le constat, on le partage, c'est beaucoup le langage qui est travaillé, et j'ai envie de dire qui est même... upgradé, parce qu'avec le machine learning, on devient dans une sophistication, enfin, en tout cas d'une forme de langage naturel assez hallucinante. Est-ce que, du coup, le fait de mettre plus de visages ne viendrait pas pour aujourd'hui casser un petit peu cette sophistication du langage qui est naturel, parce que peut-être que tout n'est pas non plus au point et que ça laisse place à plus d'imaginaire. On le voit d'ailleurs, même il y a une application qui est sortie où on est carrément en train de parler de converser avec des inconnus. Et en gros, le but est de déterminer si on s'adresse depuis quelques heures à une intelligence artificielle ou à une personne physique réelle. Et on le voit, c'est vraiment le langage. Donc moi, je rejoins là-dessus. Ce qui va m'intéresser davantage de mon côté, et c'est ce dont parlait aussi Lionel, c'est plutôt l'histoire. C'est-à-dire, peut-être qu'il manque de visage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne manque pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une éditorialisation très forte de l'intelligence artificielle, de mise en récit. On la met dans un cadre narratif. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qui raconte cette histoire-là, qui est à l'origine de l'histoire et à qui surtout ça sert, évidemment. Et donc c'est là où c'est intéressant. On voit que de toute façon, l'hypermédiatisation de ChatGPT en est aussi un exemple. On l'a intégré dans un récit et c'est là où il y a une vraie portée et où on en parle beaucoup. Parce que du coup, on diffuse et on laisse s'approprier le sujet pour les initiés et les non-initiés.
C'est ça. Et c'est ça l'important aussi aujourd'hui, c'est de se poser peut-être les vraies questions autour de cette nouveauté véritable. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parfois inverser la question, puisqu'on a parlé du langage, de l'importance du langage, celui des humains. On n'a plus le monopole du langage. On l'a donné, si j'ose dire, aux machines qui en inventent un autre. On a parlé de l'émergence, qui invente autre chose. Est-ce qu'en retour, on n'est pas un peu contaminé par le langage des machines ? Voilà une bien étrange question que vous pose le célèbre physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein.
Aujourd'hui, les machines parlent. Elles parlent en langage naturel. Et la question que je voulais vous poser, c'est par quoi la parole humaine, authentiquement humaine, doit-elle se singulariser par rapport à la parole qui est produite par les machines ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que nous mettions, nous les humains, à parler comme des machines? Et quand j'entends parfois des responsables politiques ou autres rappeler des éléments de langage, je me demande si leur parole n'est pas en train de se robotiser au point de poser la question de la démarcation entre notre parole et celle des machines. Emmanuel Lévinas disait il y a déjà fort longtemps « la parole a perdu la parole ». Que faire pour qu'il n'ait pas eu tout à fait raison ?
Que faire, Alexei Greenbaum ? En tant qu'Emmanuel Lévinas, c'était aussi le philosophe qui rappelait l'importance du visage.
Apprendre à manier le beau et le vrai, hein, que faire ? Mais Étienne Klein a raison. Nous, les êtres humains, nous imitons aussi ceux avec qui nous discutons, nous parlons, que ce soit des machines même si, ou les êtres humains, hein, on n'est pas du tout dans la confusion. On sait que la machine, c'est une machine et pourtant, du moment où elle nous parle, on va se mettre à imiter ses tics de langage, ses manières de construire les phrases.
Par mimétisme,
par mimétisme. Donc, c'est le mimétisme qui va dans les deux sens. Nous aussi, nous imitons. Et tout ce qui est là, soyons clairs, tout ce qui est dans la moyenne, c'est-à-dire des discours un peu standardisés, tout cela peut être remplacé par GPT. Hein. Ce qui ne peut pas être remplacé, c'est un discours beau, poétique, ou un discours vrai. La machine, on l'a dit, n'évalue pas la véracité d'une phrase. La poésie, la machine fait des phrases dans la moyenne, par des méthodes statistiques. Elle ne fait pas des phrases uniques comme le font les poètes. Et donc, je termine le livre là-dessus, ce que j'espère restera et peut-être même sera mis en avant dans notre manière de manier le langage, c'est le vrai et le beau, hein, le beau surtout.
Le vrai donc, et le beau, la poésie, vous dites aussi, n'abandonnons pas la poésie,
voilà,
c'est ça, le
voilà,
vrai
la poésie,
et le beau.
La machine ne fera pas de poésie parce que c'est nous, les êtres humains, qui nous jugeons, de ce qui est beau, ce qui est poétique ou pas. Et vous savez, la machine, elle fera des phrases, déjà, tout le monde peut faire cette expérience, elle fait des phrases qui sont correctes, un peu rondes, mais un peu ennuyeuses parfois, un peu triviales. Tout ce qui sort de la moyenne, ça reste du ressort humain.
tout ce qui sort de la moyenne, ça reste du ressort humain. Je trouve ça très inspirant. Marion Traumann-Schlager, vous aussi, vous nous dites au fond la créativité, mais notre créativité humaine, le beau, la vérité, la poésie, c'est ça qu'on doit absolument cultiver. On n'a pas le choix, en fait.
C'est même pas qu'on n'a pas le choix. Je pense que c'est ce qui fait la beauté aussi du sujet et qui est aussi révélateur de cette quête de l'intelligence humaine. Plus on parle d'intelligence artificielle, plus que jamais, en fait, la quête de qu'est-ce qu'une intelligence humaine existe et remonte à la surface. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, de plus en plus, on a une hybridation très forte, en effet, entre intelligence artificielle et nous, nos comportements en tant qu'utilisateurs qui parfois aussi s'imprègnent de ça parce qu'on doit respecter des normes d'usage, parce que voilà, il y a des codes. Et ben, on s'est imprégné. Et du coup, forcément, il y a des impacts et des effets. Moi, ce à quoi ça me fait penser, là, cette question, c'est aussi celle de, ben, justement, qui est abordée par Adrien Talent dans The Conversation aussi, qui parle de régime de démocratie VS régime d'algocratie, où aussi la régulation algorithmique serait totale. Et donc là, ça paraît un petit peu dystopique, mais en réalité, il parle de cette projection-là, et c'est un petit peu le sujet aussi. Je pense que le risque réel, en fait, c'est qu'on enferme depuis des années l'intelligence artificielle dans un débat binaire. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un progrès? Et en fait, on voit que le réel danger, c'est peut-être d'entretenir cette illusion que l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait se substituer à une prise de décision, par exemple, qu'elle soit spontanée ou issue d'une réflexion d'expertise. Voilà, là, on rentrerait clairement dans quelque chose qui pourrait
donc
relever de l'ordre du
fantasme. Pas, ne nous laissons pas gouverner, ni réduire, hein, ce serait peut-être le mot de la fin, Alexei Greenbaum, ne nous laissons pas réduire par ces autres intelligences artificielles non humaines.
Laissons-nous nous fasciner par ces systèmes, surtout fasciner. Je pense que là, il faut y aller avec l'idée que oui, il y aura des effets. Oui, les professeurs, les élèves utilisent déjà ces systèmes, ça doit changer. On va faire différemment, mais il faut y aller avec une fascination pour ce monde nouveau. Et moi, je suis très 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 fasciné parce qu'il nous arrive à travers le langage.
À suivre et à lire, Alexei Greenbaum, dans votre ouvrage excellent, dont je rappelle le titre, Paroles de machine, sous-titré Dialoguer avec une IA, paru aux éditions Humaine Science, et dont nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, qui vivaient loin d'ici et qui avaient l'esprit libre, ouvert et curieux, demandez-le nous sur notre page Facebook ou par mail. Un grand merci Marion Traumann-Schlager d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes, avec à la technique.
Merci
à vous et un grand merci à Christophe Bonpas.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui, mais on continuera à parler de l'IA et aussi de la fascination qu'il faut avoir en toute compréhension. Merci Alexei Greenbaum d'avoir été avec nous en direct. Rendez-vous demain, chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question comment cultiver l'esprit des sciences avec des chercheurs et chercheuses qui nous font passer leur science comme jamais. Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité. Le journal dans quelques instants sur RFI.